On va donc revenir à ce qui nous occupe aujourd'hui, donc notre invité, alors Pierre Goya. Je vois, tu peux peut-être te présenter, puis ensuite présenter, alors, comment on dit, Jean Mecker, c'est son nom, Jean Amila, John Amila. Enfin, tu vas peut-être nous présenter un peu pourquoi tu as écrit ce livre-là. Voilà, j'ai beaucoup parlé, donc à toi.
Bon, donc mon nom Pierre Goya, je suis enseignant dans la région de Lens en lycée professionnel. J'enseigne lettres et histoire en lycée professionnel. Tout en travaillant, j'ai continué à faire des études universitaires. J'ai toujours travaillé sur le roman policier. J'ai fait une maîtrise sur les nouvelles de Frédéric Fajardi. J'avais fait un DEA sur la collection de romans Le Poulpe, que vous devez connaître. Voilà, j'ai pas travaillé sur l'ensemble de la collection, c'était assez important. J'ai choisi l'auteur que je connaissais le mieux. J'avais essayé d'étudier comment il se débrouillait avec ce personnage, avec la littérature à contrainte. Voilà. Et ensuite, j'ai entamé une thèse donc, de doctorat qui a débouché sur la publication de mon livre, sur l'œuvre de Jean Mecker, Jean Amila, que j'ai commencé en 2001 et que j'ai soutenu en 2009. J'ai pris mon temps, quoi. Mais bon, voilà. Alors, j'ai choisi de travailler sur Jean Mecker, Jean Amila, parce que ça fait partie un petit peu des illustres inconnus de la littérature policière, c'est-à-dire que sans eux, elle aurait sûrement été différente de ce qu'elle est, et en même temps, ils sont pas très connu et surtout à l'époque pas très lu. Aujourd'hui, je crois que ça va un petit peu mieux avec les rééditions qu'il y a pu y avoir en folio policier ou la réédition des œuvres de Mecker chez Joël Losfeld il y a quelques années. Mais quand moi j'ai commencé, le prof avec lequel je travaillais en avait vaguement entendu parler parce qu'il avait lu un truc sur Deninx où on parlait de Mecker en passant, quoi. Voilà, donc ça arrêtait là.
Il avait dédié son bouquin à
Oui.
Meurtre pour mémoire.
Meurtre pour mémoire. Non,
Non,
La mort n'oublie personne.
la mort
Dans
n'oublie
La mort
personne.
n'oublie personne, effectivement, il le dédie à Jean Mecker. J'avais lu le livre à l'époque et je dois avouer que je n'avais pas fait du tout attention, ça ne m'avait pas marqué. J'ai découvert Jean Mecker, enfin quasiment le jour où il est mort, par un article dans L'Humanité, qui est un des rares journaux d'ailleurs à avoir parlé de la mort de Jean Mecker. Il y avait un papier d'Hervé Delouche
Il est mort en 95,
Il
c'est
est
ça?
mort, ouais, le 7 mars 1995, et le papier est passé dans la semaine suivante dans le journal. Et il se trouve qu'à l'époque, j'habitais Bordeaux, et le samedi après-midi, comme on s'ennuie dans les grandes villes, j'allais faire le tour des bouquinistes, et je suis tombé sur Nous sommes tous des assassins, un petit peu par hasard, et comme j'avais lu le papier dans l'humain dans la semaine, j'ai acheté le bouquin. Et j'ai lu le bouquin, j'ai trouvé formidable, et ensuite j'ai continué à lire du Mecker comme ça, et du Amila au fur et à mesure de ce que je trouvais chez les bouquinistes, en chinant à droite à gauche, voilà.
Ça n'a pas dû être facile, hein, parce que
Ça se trouvait en carré noir, tu les avais quand même. Hein,
oh,
tu les
en carré
trouvais
noir. Mais
en carré noir. Et
les premiers, là, en collection, ce qu'on appelle la collection Gallimard Blanche,
oui.
Parce qu'il y a une différence.
Oui,
voilà,
oui,
est-ce
oui.
que tu peux
Tu,
t'expliquer?
tu veux que, tu veux que j'explique, oui.
Ouais.
Alors, ce qu'on trouve assez facilement, c'est les séries noires. Parce que les séries noires étaient tirées à 40 000 exemplaires. Alors, beaucoup ont disparu, bien entendu. Mais il en reste quand même quelques-unes en circulation, y compris les éditions originales. Je les ai trouvées quand je les ai cherchées sans trop de difficultés. À des prix à peu près corrects. Une série noire jaquettée en bon état pour une vingtaine d'euros, c'est relativement correct. Et les autres, je les ai trouvés aussi. Alors, souvent, j'ai trouvé des éditions carré noir qui étaient une sous-collection de poches qui appartenait à Gallimard. Ils rééditaient dedans les séries noires avec beaucoup de choses pas très intéressantes comme les Carter Brown, tout ça. Puis il y avait une photo avec
Oui,
une jeune femme.
Souvent, ils changent la couverture pour faire
Voilà,
vendre. Hein.
on mettait une
Femme
jeune femme
nue.
dénudée. Ça n'avait rien à voir avec l'histoire, mais peu importe, ça devait, dans les années 70, ça devait faire vendre, je suppose. Tu m'avais demandé. Oui, alors.
Expliquer un peu
la
différence entre
différence.
La
Bon.
blanche et la noire.
D'accord. Alors, Jean Mecker, c'est essentiellement un auteur Gallimard. Essentiellement, 80 ou 90% de ses romans sont parus chez Gallimard. Et. Quasiment tous apparents de son vivant, en tout cas. Et donc, il a commencé à la blanche, c'est-à-dire. Je suis un monstre ou nous sommes tous des assassins, qui est la collection emblématique de la maison Gallimard, de la librairie Gallimard à l'origine. Et il écrivait des romans de type prolétarien. Alors, son premier paru en 1941, ça s'appelle Les Coups, dont il y a la réédition au Terrain Vague, chez Pauvert en 93. Donc, c'est paru en 1941. On en a pas mal parlé quand même. C'est un livre d'ailleurs assez étonnant parce que c'est une histoire d'amour entre un ouvrier et une
bourgeoise.
Une
petite bourgeoise.
Petite bourgeoise, une secrétaire, mais qui se lasse un peu du col, quoi, qui essaye qui a certaines prétentions culturelles relatives, et ça énerve le prolo, parce qu'il sent bien qu'on l'exclut un petit peu avec cette histoire de culture. Enfin, ce sont des cuistres, hein, c'est une culture. à la mode, quoi, disons, et de l'époque. Et donc, c'est l'histoire de leur couple qui se rencontre, ils se séparent, ils se retrouvent. Bon, voilà. C'est une histoire d'amour, en même temps, sur fond de classe sociale, quoi, y compris d'affrontement à l'intérieur de la classe ouvrière. Hein, parce que la jeune fille fait quand même partie de la classe salariée au sens large du terme. Et donc, ce premier roman paraît en 1941. Décembre 41, janvier 42 en fait. Et Gide le lit et en parle dans le Figaro. Il fait un papier assez élogieux. Et donc le Mecker, il est un petit peu lancé comme ça, comme le nouveau Céline pour la Maison Gallimard.
Oui, parce que bon, avait raté André Gide, les caves du Vatican, c'était vraiment un auteur quand on est.
C'était de la littérature des années 30 et 40. C'était vraiment là. Et donc comme Gallimard avait raté bêtement, ils ont laissé partir Céline chez la concurrence de Noël en l'occurrence à l'époque. Ils ont essayé de refaire, ils se sont dit tiens, peut-être le nouveau Céline entre les mains. Bon, ça n'a pas donné du nouveau Céline, mais ça reste quand même intéressant ce que fait Mecker. Et donc il va commencer une carrière d'auteur prolétarien. Alors je dis prolétarien et pas populiste parce qu'il était ouvrier. C'est un gars qui est un prolo, quoi, vraiment un prolo. Et c'est pas un intellectuel qui écrit sur le peuple, même s'il en est dit y a des populistes qui ont fait du bon travail. Je pense à Louis Guillou, par exemple, hein, qui a tout à fait le respect des milieux populaires et du monde ouvrier. Mecker, lui, c'est vraiment un prolo, quoi. Il a commencé comme ouvrier et donc il écrit, c'est très. Très autobiographique, je dirais, ses premiers romans. Bon, il va continuer à écrire dans ce thème-là jusqu'en 1945-46. Le problème, c'est que, bon, c'est un peu fini, quoi. La littérature prolétarienne, elle a du mal à survivre à la guerre.
Ça a marché avant la guerre, après la guerre.
Après la guerre, c'est un peu remplacé. Enfin, c'est l'analyse que je fais.
Par les trucs de la littérature populiste.
Par la littérature réaliste socialiste plutôt.
Ouais.
Je pense que c'est plutôt.
C'est l'influence du Parti communiste.
Voilà. L'influence culturelle du PC, de la littérature soviétique, de l'Union soviétique au sens général du terme, qui fait que cette littérature un peu militante, un petit peu engagée, a été un peu absorbée par la sphère communiste, je dirais. Quoi. Elle a rejoint la sphère communiste et les autres ont eu moins de. Ragon aussi, Michel Ragon qui a écrit aussi des romans de type populiste qui n'appartient pas du tout à la sphère communiste. Mais bon, l'essentiel a quand même été absorbé par. Ce qui fait que Mecker s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau, quoi, avec sans public. Quoi. Il vendait, ses bouquins se vendaient à 5-6 000 exemplaires. Alors, il y a beaucoup qui seraient très contents de vendre 5-6 000 bouquins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était pas terrible. On lui a proposé de passer à la série noire, qui est donc la branche roman policier de la Maison Gallimard. Et Marcel Duhamel, qui en était le directeur et le fondateur en 1945, lui a proposé d'écrire des romans noirs, quoi.
Oui, alors à ce temps-là, la littérature policière, c'était essentiellement ce qui avait la cote, c'était les romans anglo-saxons, quoi, américains.
C'est même une condition jusqu'en 1953, c'est une condition sine qua non. On ne rentre pas à la série noire si on n'écrit pas des romans de type anglo-saxon, quoi.
D'où le changement de nom, quoi.
D'où le changement de nom, voilà. Et le fait que le premier roman, Il n'y a pas de banlieue, se passe aux États-Unis et non pas en France. Il se passe aux États-Unis, il paraît donc en 1950, c'est une histoire, c'est une histoire, je vais m'étendre un petit peu parce que je pense qu'il est important ce roman. Il n'y a pas de bon Dieu, parce qu'on est en 1950, c'est le deuxième auteur français qui part à la série noire, après Terry Stewart qui avait écrit... La mort et l'ange, qui lui aussi se passe aux États-Unis. Donc jusque-là, il n'y avait que des auteurs américains qui avaient été publiés, et anglais. Enfin, la plupart sont des britanniques d'ailleurs. Peter Cheney était anglais. Et ensuite, on va voir les bons américains. Il y a Chandler, il y a McCoy, il y a Dashiell Hammett, quand même du lourd, quoi. Hein. Au début de la série noire, il n'y a pas que les Mikoshian, heureusement. Il y a un engouement pour la culture américaine dans ces années-là, après la libération. C'est dans ces mêmes années-là que Boris Vian va éditer Les Vernon Sullivan, par exemple, c'est un roman policier sous pseudo. Et donc, on va lui demander d'écrire des romans à l'américaine, quoi. Et donc, il va proposer ce texte. Alors, il prend un pseudo qui est John Amila. Les quatre premiers romans vont paraître sous le prenant de John Amila, ensuite ça sera Jean.
D'ailleurs, il avait proposé
Amilanard, qu'il avait déjà des sympathies libertaires.
Et du coup, c'est Gallimard qui a trouvé que c'était trop long.
C'était trop long, c'était. Non, c'est Marcel Duhamel qui a dit c'est trop long, il a coupé, pouf, il a viré la dernière syllabe, il est resté Amilanard. Voilà. Voilà l'anecdote de son pseudo. Donc de Amilanard, c'est devenu Amila. Et en même temps, il ne disparaît pas, parce que sur l'édition originale de Y'a pas de bon Dieu, il y a marqué adapté par Jean Mecker. Il refuse de disparaître en tant qu'écrivain, quoi. Il manifeste sa présence. Voilà. Et donc, ce roman alors, se passe aux États-Unis. C'est l'histoire d'une vallée qui va être ennoyée pour faire un barrage. Alors, évidemment, ça fait penser à l'affaire de Tignes dans Savoie, je crois. Savoie, ou je ne sais plus si c'est en Savoie ou en Isère. Bon. En Isère, peut-être. Donc, dans les montagnes, il y a eu une grosse bagarre qui a duré quelques années contre le barrage de Tignes. Donc, il reprend cette idée qui est très franco-française, enfin, qui est dans le contexte franco-français. Hein. On est vraiment dans les faits divers quasiment, parce qu'il y a eu tout un tas de bagarres, y compris des explosions. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées à Tignes. Et donc, il reprend un petit peu cette histoire, mais en même temps, il va plus loin. Parce que l'affaire du barrage, en fait, c'est un prétexte. Et ce que vise le consortium qui veut faire ce barrage officiellement, il y a des gisements d'uranium. On est donc en 1950, le roman a été écrit en 49-50. On est en pleine période de guerre froide, le début du surarmement nucléaire, d'armement nucléaire. Et donc l'uranium, ça devient extrêmement important, ça devient extrêmement sensible. Et donc à travers un livre qui, entre guillemets, n'a l'air de rien, qui nous parle de choses qui ont l'air tout à fait, anodines, pas tout à fait, mais c'est beaucoup plus engagé que tout ce qui se faisait jusqu'à présent. Mais ça va beaucoup plus loin que ça en a l'air. Quoi, voilà. On peut le lire au premier degré, on a une bagarre entre une communauté villageoise, parce que là, pareil, il n'y a pas de héros, le héros est souvent collectif chez Amila, il n'y a pas le super héros qui fait tout quasiment lui tout seul, c'est pas James Bond.
Les anarchistes veulent pas de chef.
Ouais, voilà, je pense que c'est ça, il y a quand même cette idée de collectif, quoi. Voilà, il y a toujours cette idée de collectif, et donc c'est la communauté villageoise qui se soude contre le consortium. Et le fond de la bagarre, c'est ils veulent ce terrain, c'est pas pour faire un barrage du tout, c'est pour aller chercher l'uranium, et dans ces années-là, c'est pas évidemment, c'est pas anodin, quoi. C'est un engagement, quoi, contre l'usage de l'arme nucléaire.
D'ailleurs, ça sera un engagement constant chez lui.
Ça sera un engagement constant parce que son dernier roman, La Série Noire, au balcon d'Hiroshima, nous décrit en détail la destruction d'Hiroshima. Ça se passe à Hiroshima en 1945, au moment de l'explosion de la bombe atomique américaine. Donc effectivement, c'est un fil rouge qu'on va retrouver, le pacifisme, l'antimilitarisme, la dénonciation de la course aux armements, on va le trouver effectivement dans toute son œuvre, notamment dans La Vierge et le Taureau. J'en reparlerai peut-être plus tard.
Oui, mais ça vaut le coup, parce que
ça vaut le coup de développer un peu. Ouais, faudra... Tu me dis quand
non, mais
tu veux que j'en parle
Vas-y, bon, allons-y.
Donc, dans le fil antimilitariste et pacifiste, vous savez que privé de l'Algérie, la France était ennuyée pour faire des essais nucléaires. Visiblement, on ne pouvait pas les faire dans le Massif central, ni à Monaco. Je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, on ne pouvait pas. Donc, on s'est trouvé. Nos militaires se sont trouvés un nouveau terrain de jeu. Et donc, ils se sont trouvés un atoll perdu du Pacifique. Pour faire les essais nucléaires. Et ça a eu le don d'énerver Jean Mecker, parce que le bouquin est paru sous le nom de Jean Mecker, qui va partir donc à Tahiti pour faire des repérages pour un film avec Kayat, avec André Kayat. Il avait novélisé deux scénarios de Kayat et Spack. Il y en a un là, c'est Nous sommes tous des assassins, justice est faite. Et donc il devait écrire un scénario de film, et il a demandé donc aller à Tahiti voir comment ça se passait pour écrire son scénario. Et donc il y va, le film s'est jamais fait, le scénario n'a pas dû beaucoup plus s'écrire à mon avis. Par contre, il a ramené un roman. Alors c'est pas un roman qui est très bon, c'est même à mon avis d'assez loin le plus mauvais de ce qu'il a fait. C'est vraiment le roman à thèse dans ce qu'il a de pire, quoi. C'est vraiment lourd, quoi. Il y a des passages qui sont vraiment lourds, tout ça. J'ai pas trouvé que c'était vraiment pas son meilleur, mais par contre il y a un contenu, quoi. Il y a un contenu pour l'époque. On est en 71,
hein. Déjà.
Anticolonialiste, bien sûr, et pacifiste, anti-nucléaire, quoi. Anti-essai nucléaire. Et évidemment ça c'est pas anodin, parce que les essais ont commencé en 68, il écrit son roman, enfin le roman paraît en 71. Donc on est vraiment dans la continuité, quoi. On est à chaud, quoi. On est dans l'acte militant, quoi, quasiment. Et donc ce roman est entouré de tout un... Il y a toute une légende autour, hein, parce que bon, c'est paru. Alors il est paru aux Presses de la Cité. Moi j'ai un exemplaire qui est très bizarre. C'est...
Parce qu'il y a des couvertures différentes,
différentes. C'est un bouquin qui est vachement bizarre en tant qu'objet déjà. Moi, l'édition que j'ai
est blanche sous le nom allemand.
Alors voilà, non, mais j'ai la couverture qui va avec, parce qu'il y a une surcouverture, enfin, ouais. Une jaquette. Ouais. Donc j'ai la jaquette, et quand on retire la jaquette, normalement sur un bouquin, quand on retire la jaquette, on trouve sur la couverture, proprement dite, sur la première de couverture, on trouve le titre, le nom, tout ça. Là, il n'y a rien, c'est blanc. Voilà, c'est super bizarre comme bouquin. Et j'en ai trouvé sur, alors je ne l'ai pas acheté, c'est un peu cher, 150 euros. J'en ai trouvé une autre version avec un dessin, une photo en couleur, avec un couple qui s'enlace sur une plage. Bon, voilà. On voit les cocotiers au fond. On les sent plutôt qu'on les voit. Et donc, c'est un bouquin assez bizarre. Quoi. Ouais. Et ce livre a la réputation. Enfin, très longtemps, il a traîné une légende d'un livre qui avait été récupéré par les services secrets et qui avait été pilonné. Et qui aurait valu aussi à Jean Mecker une branlée en règle.
Qui l'a laissé quand même épileptique et amnésique en partie.
Voilà, qui l'a laissé amnésique et épileptique. Alors ça, c'est sûr. C'est ce qu'il raconte d'ailleurs dans Comme un écho errant, qui est son dernier bouquin qui avait été refusé en 86 chez Gallimard et qui a été édité par Joseph K. en 2012, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc, il y a une légende. Je dis une légende parce que c'est pas l'entière vérité, à mon avis. Parce que, bon, ça faisait longtemps qu'il s'en prenait au service secret.
Voilà. C'est de ceux
il a
qui
commencé avant.
C'est ceux qui préfacent, c'est de l'Esté qui conteste
oui.
un peu.
Oui,
ce,
oui. Et oui, qui le conteste. Et effectivement, bon, parce que le bouquin, il paraît en 71, il se prend le branlé en fin 74. Ouais. Ce qui fait quand même. Ils ont le cerveau lent, mais pas ce point-là, quoi.
Oui, mais.
Il devrait agir un peu plus que ça.
Bon, je vais intervenir quand même pour faire l'avocat du diable parce que pendant 3 ans quand même il a continué à faire des articles un peu partout contre le nucléaire, à militer, etc. Et peut-être que effectivement ce que dit Delesté, c'est que contrairement à ce qu'avait affirmé Amila, enfin Jean Mecker au début, il n'a rien dit finalement sur ce bouquin. Et c'est des années après qu'il a dit, si je me trompe, tu me reprends, n'hésite pas. Et il a dit que finalement, il y avait des gens qui s'étaient présentés chez l'éditeur et qui avaient acheté le stock. Et ça, on reconnaît comment faisaient les services secrets quand ils voulaient faire disparaître, et des pressions sur l'éditeur pour qu'on le fasse, on le retire du catalogue. Alors, il y a quand même des faits. C'est qu'effectivement, c'était retiré du catalogue. Et Jean Mecker a écrit, je ne sais plus où, je ne sais plus si c'était dans une interview, je pense, dans une revue qui s'appelle Polar, je crois, je ne suis pas sûr, mais bon, là. Finalement, il en avait parlé à son éditeur, et son éditeur a dit que, il n'était pas français, et que ça craignait pour lui, et qu'on ne peut pas tout faire, et que, normalement, il ne devrait même pas lui en parler. Donc, il y a quand même des éléments comme ça, mais comme c'est rapporté par Jean Mecker, c'est là que je pense que c'est le mystère qui s'épaissit, c'est que comme c'est rapporté par Jean Mecker, est-ce que c'est pas Jean Mecker qui a inventé tout ça pour broder un petit peu autour de cette agression, mais en tout cas on n'a jamais su. Après, au moins, il disait qu'il avait été agressé quand même par le SAC. C'était quand même le service Action Civique, c'était la police parallèle du mouvement gaulliste, et ils étaient quand même toujours dans les coups tordus. Il a fallu attendre, je crois, Mitterrand.
En 83, il y a une commission d'enquête et ils ont interdit le SAC en 83.
Oui, c'est ça. Mais dès 81, Mitterrand avait dit...
Après la tuerie d'Auriol, en fait.
Oui, c'est ça.
En 82, il a été interdit, je crois. Mais tout le monde, je pense, même les gaullistes étaient contents de s'en débarrasser.
Oui, parce que bon, c'est Abre Pasqua pour les gens qui veulent mettre des noms.
Visiteurs, Pasqua. Et quelques autres amis de l'humanité du même acabit.
Là, on pourrait quasiment faire une réunion rien que sur ça, donc on va peut-être couper tout de suite.
On va parler
de gens intéressants. Revenons à Jean Mecker.
Donc, Jean Mecker, alors, il dit effectivement que ce bouquin a été retiré. Alors, il le dit en 85 dans une interview au matin de Paris, en 1985. Et donc, c'est longtemps après. Donc, c'est possible, pourquoi pas. Mais il dit aussi, parce que moi, j'ai trouvé d'autres interviews qui sont de la période où le bouquin me paraît, où il dit que c'est un échec, ça n'a pas marché, qu'on lui a dit que ce n'était pas un très bon livre, tout ça. Et là, dans ces années-là, j'ai une interview de 72, une autre de 73. Il ne parle pas du tout de pression, de choses comme ça, quoi, du tout. Hein. Donc, voilà, j'ai mis les deux en parallèle. Après, ou la vérité entre les deux. Après, qu'il ait été agressé, ça c'est enfin, est-ce qu'il, pareil, est-ce qu'il a été agressé, on l'a retrouvé dans une rue de Paris, par terre, il avait un mauvais coup à la tête, on s'est aperçu qu'il est, enfin, il s'est aperçu qu'il devenait épileptique et amnésique, il a dû apprendre à écrire, il a dû apprendre à lire, sa sœur qui l'a aidé à sortir du trou dans lequel il était.
Il voulait se foutre en l'air, lui.
Il voulait se foutre en l'air, il était rentré très mal à ce moment-là. C'est ce qu'il raconte dans Comme elle est cohérent, d'ailleurs, c'est ce qu'il raconte dans Comme elle est cohérent. Et alors, ça faisait longtemps qu'il écrivait sur les services secrets. S'il a pris une branlée, c'est peut-être pour l'ensemble de son œuvre, je dirais.
Voilà,
parce que il avait commencé à les titiller un petit peu dans une série de romans comme Le Grillon enragé, qui se passe en 68. Il avait écrit aussi Les Fous de Hong Kong, où ils sont mis en cause. Enfin, il y a 5-6 romans comme ça où il attaque assez directement les services secrets. Ouais. Quoi. Donc, c'est
pour ça que moi, je pense que 71, 74, ces 3 ans-là, il avait continué à les faire chier vraiment.
Oui, c'est possible. C'est possible.
Donc,
c'est possible.
Je pense que, effectivement.
Il continue après 60 ans, il continue à écrire des bouquins de ce type-là, La Nef des Dingues, avec le personnage de Geronimo, le flic hippie, qui souvent il est en but effectivement au service secret dans Terminus Siena par exemple, qui sont pas, je dois le dire, c'est pas ses meilleurs romans, quoi. Faut pas commencer par cela. Les romans plus ou moins d'espionnage, c'est pas du James Bond, ça vaut beaucoup plus, mais en même temps, moi je trouve que c'est pas, enfin, faut les lire par curiosité, quoi. C'est toujours intéressant, mais je pense que c'est pas ses meilleurs, quoi. Il a fait tout, il a même fait la SF, donc seul truc que j'ai pas trouvé, c'est les romans érotiques, mais j'ai peut-être pas suffisamment cherché.
Non, mais c'est vrai que c'est époustouflant qu'un gars comme ça puisse toucher à tout. D'ailleurs, Boris Vian, c'était un peu ça aussi.
Il a écrit une cinquantaine, sur une période d'une cinquantaine d'années. On a retrouvé l'année dernière un inédit des nouvelles qui s'appelle Abîme et autres contes. Ouais. Voilà, qui de très beaux textes qui datent du milieu des années 30. On les a datés plus ou moins de 1935. Et il arrêtera, enfin, il arrêtera même pas d'écrire.
C'est pas que tu veux répondre.
Non, c'est pour mon téléphone.
Là, c'était pas pour toi. Non, mais c'est pas grave, Jacques. On donne pas de nom, c'est enregistré.
Il a écrit sur une cinquantaine d'années et 35 romans, ce qui est quand même, bon, c'est une œuvre colossale sur une période assez longue quand même, mais il a écrit longtemps, quoi. Une œuvre sur une cinquantaine d'années, c'est quand même pas mal, quoi, comme longévité.
Quand tu disais qu'il y avait une partie qui n'était pas très bonne, moi je suis assez d'accord là-dessus, mais il y a quand même...
C'est pas son meilleur.
Si on le redécouvre aujourd'hui, c'est quasiment avec la même, la même notoriété que pour les coups. Je veux dire, c'est quand, je sais plus, en 86 peut-être que La Marche au canon a été réédité.
Non, 2005.
Oui, tout à fait récemment. Ouais.
Ouais, c'est 2005,
donc,
La Marche au canon.
Ouais. Et en fait,
c'est 93.
Ouais. Et en fait, c'est pareil. Ce roman, il est sorti, c'était un inédit, et il y a eu une très bonne critique.
Ouais.
Et c'est à partir de là, je pense, que Joël Losfeld a commencé cette collection-là dont tu m'as dit tout à l'heure qu'elle risquait d'être interrompue.
Ouais, mais le dernier sorti en 2008, je crois, et il n'y a rien eu depuis. Une collection qui s'est restée pendant 6 ans, c'est vraiment très bon signe pour la suite. Quoi.
Ouais, mais il faut dire aussi qu'il y en a deux autres qui sont sortis chez Joseph K.
Chez Joseph K, donc... Ouais. Après, ce qui reste la réédité, il y a La Lucarne, qui est de 1945, qui est indisponible. Il y a La Ville de Plomb, alors qui est un roman assez original, qui se passe, qui paraît en La Ville de Plomb, c'est 1949. Et donc, on est dans l'après-guerre. Il imagine que Paris a été à moitié détruite par une explosion nucléaire. Donc, il y a une partie de la ville de Paris, l'est de Paris, qui est détruite. Et l'ouest de Paris, on continue à vivre tout à fait normalement, comme si la ville était coupée en deux par la vitrification d'une partie de la ville. Et donc, et à l'intérieur de ce roman, on a le roman, le premier roman, je dirais. Et à l'intérieur de ce roman, on a... On a un roman donc, où il y a une histoire d'amour, une histoire de crime. Et à l'intérieur du roman, il y a un autre roman qui s'appelle Le Journal de Marcel. Et là, il raconte Paris vitrifié, coupé en deux. Quoi, voilà. Donc, on a un roman à l'intérieur du roman. Qui est un roman qui est pas mal, d'ailleurs, qui mériterait d'être édité, je pense. Qui est aujourd'hui devenu, à mon avis, pas introuvable, mais très difficile à trouver. Je ne sais pas, tu l'as peut-être lu. Tu l'as pas lu, celui-là. Pareil, c'est un de ses derniers. Quoi. C'est un de ses derniers à la blanche. On sent que ça s'épuise quand même un petit peu, mais il est quand même très intéressant à lire. Quoi, hein. Si on le trouve, il ne faut pas hésiter à le lire. Il est vraiment très, très intéressant.
On va va peut-être justement, par rapport à Jean Mecker et donc John Amila, parce que bon, c'était John Amila, il a réussi quand même dans la noire, peu à peu, à franciser son nom. D'ailleurs, dans les romans qu'on suivit, les actions se passaient en France, non plus aux États-Unis.
Dès le deuxième, on est en France.
C'est assez amusant de voir cette démarche d'un gars qui écrit, et il pense qu'il écrit des bons romans, il a toujours eu une bonne idée, d'ailleurs il n'avait pas tort. Les bouquins qui sont sortis sur La Blanche, c'est quand même une qualité littéraire qui est affirmée. Et comme ça ne marche pas, en fait, il accepte de faire du polar. Mais il le fait forcé et contraint, mais il continue à l'intérieur à se battre en imposant le fait que bon, ça ne soit plus les anglo-saxons, que son nom, il n'a pas réussi quand même à mettre Jean Mecker, mais bon, de John Amila, il est passé à Jean Amila, et toujours après, c'était traduit par...
Parce que dès la parution de son premier roman, en fait, on trouve dans la presse que j'ai retrouvée aux archives Gallimard, il y a déjà des critiques qui savent que c'est Jean Mecker et qui le disent. Donc c'est un peu un secret de polichinelle, quoi, assez vite. Et dès le deuxième roman, on a une photo de John Amila, qui est évidemment celle de Jean Mecker, sur le rabat de la couverture, sur les anciennes. Les premières séries noires étaient cartonnées et dessus il y avait une jaquette qui reprenait cette couverture-là de la série noire, comme Les Loups dans la Bergerie ou Jusqu'à plus soif, sans la photo. Et donc, sur le rabat de la couverture, il y avait le résumé, un prière d'insérer, et il y avait la photo de l'auteur. Donc là, c'était clairement Jean Mecker qui était en photo. Mais alors, le deuxième, il paraît en 1953, et là, on a les premiers Français qui rentrent officiellement. C'est Albert Simonet avec Touché Pau Grisby, qui est le premier Français escalité en tant que tel à la série noire. Et à partir de là, les auteurs français auront leur place à la série noire. Et Jean Amila va encore faire deux romans sous le nom de John Amila. Et ensuite, il passera à Jean Amila avec, je crois que le premier, c'est Les Loups dans la Bergerie en 59, si mes souvenirs sont bons. Et donc après, il deviendra Jean Amila définitivement. Quoi, voilà. Il abandonne le John à partir de 59.
Et avant donc de recommencer à écrire des romans qui ne sont pas des séries noires, il y a quand même un laps de temps qui correspond au moment où il s'est fait agresser. Pendant 7 ans, le temps qu'il se reconstruise, il n'a pas écrit. Et en fait, les romans qui sont parus après sont quand même, pour quelques-uns, de la même veine que...
Les quatre qui sont parus à partir de
81. Dont Le Boucher et Hurluc est quand même...
Qui est son chef-d'œuvre. Noir, c'est vraiment le chef-d'œuvre. Mais il avait déjà eu des périodes comme ça. Il publie rien... Je ne dis pas qu'il écrivait, parce que ça, j'en sais rien, mais il ne publie rien entre 1964... Alors, il fait trois romans en 64, dont La Lune d'Omaha sur le débarquement. Il fait trois romans en 64. Et ensuite, il n'y a plus rien jusqu'en 69. Il y a un trou pendant... Alors, il travaille pour le cinéma. C'est la période où il bossait pour le cinéma, pas mal. Donc, il y a un trou de 5 ans. Et ensuite, son dernier roman paraît en 74, À qui ai-je l'honneur, qui est aussi un roman type roman d'espionnage. Et il revient en 81 à la série noire avec Le Chien de Montargis, je crois. Non, c'est Le Pigeon du Faubourg. Je ne sais plus. L'un des deux.
L'ordre des romans, là.
Je crois que c'est Le Pigeon des Faubourgs.
J'ai pas fait de thèse dessus, moi.
Oui, mais des fois j'ai des doutes sur les dates. Je crois que c'est le premier, c'est ça. Ouais, c'est le Pigeon du Faubourg qui se passe au Faubourg Saint-Antoine, dans le milieu des décorateurs et des menuisiers d'art du Faubourg Saint-Antoine, à côté de la Bastille.
À partir de ce qu'on a déjà dit là, s'il fallait conseiller pour les gens qui ne connaissent pas encore Jean Mecker, John Amila, et même, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller? Bon, Le Boucher des Hurlus. Je pense que, bon, en plus ici, on est au pied du Chemin des Dames, donc s'impose.
Tout à fait. Celui-là.
Après.
Alors, moi, pour rentrer dans l'œuvre de Mecker Amila, je conseille toujours Les Coups, son premier.
Les Coups,
Commencer par Les Coups. Moi, c'est ma pratique en tout cas, et je crois que ça a du sens en tout cas. J'essaie toujours de commencer par le début. Alors, souvent, un auteur que je connais pas, qui a déjà écrit plein de trucs, j'en prends un petit peu au hasard. Mais après, je préfère lire dans l'ordre chronologique d'écriture. Pour moi, ça fait sens. Donc, là, c'est pas spécialement ça l'idée, mais les meilleurs, ouais, c'est les coups. Moi, je pense qu'il faut commencer par les coups. Et ensuite, effectivement, Le Boucher des Hurlus, qui est un roman qui est en série noire, qui est en folio maintenant, qui date de 1983 et qui est un roman sur la guerre de 14. Alors, pareil, c'est un roman sur la guerre.
Sur les gosses, en plus.
À la Mila, quoi. Ouais, voilà, y a pas de combat, il n'y a pas d'histoire de poilu, il n'y a pas de glorieuse attaque, il n'y a pas tout ça, quoi. Évidemment pas. Ça se passe même, c'est après la guerre, on est en novembre, décembre 18, janvier 19, dans ces eaux-là. C'est l'histoire d'un gamin qui... Alors aussi, il y a toute une légende. C'est un homme à légende. Pour un auteur, pour un écrivain, c'est normal. On est en pleine période de grippe espagnole qui va tuer des millions d'Européens, dont Apollinaire. Et ils sont donc, on est dans cette peur, quoi, qui est un petit peu dans le roman la métaphore des dangers de la guerre aussi, des menaces qui sont là, qui planent sur la tête des gens en permanence. Et donc, c'est un gamin dont le père a été fusillé pour l'exemple en 17 sur le chemin des dames, et qui, avec ses copains, alors il a été mis en orphelinat, sa mère a été internée parce qu'elle est devenue folle. Le gamin a été placé dans un orphelinat à Courbevoie.
Enfin, il parle de lui, là.
Il parle de lui, c'est tout à fait autobiographique. Il parle de lui.
On va y revenir. Ouais, voilà.
Oui, il parle de lui.
On va continuer sur le roman.
Alors, il parle de lui. Jean Mecker, petit garçon, donc, il est né en 1910. Donc, il avait, en 18-19, il avait 8-9 ans. Et donc, son père n'est pas rentré à la guerre de 14. On verra après pourquoi. Sa mère, effectivement, a eu une période de dépression.
Elle était internée.
Dans un hôpital psychiatrique. Et lui, il s'est retrouvé mis dans un orphelinat protestant à Courbevoie, dont m'a parlé mon ami Patrick Pêchereau, qui habite pas très loin. Ça, c'est pour la part qui est commune au roman et à la vie de Jean Mecker. Et donc, dans le roman, on a ces gamins, pareil, qui sont dans cette orphelinat à Courbevoie, qui vont chercher à venger le père du petit Michou, qui a été fusillé par un général, le général Desgringues. Et les gamins, ils vont sur la zone des armées, dans les zones dévastées, en 18, on est fin 18, début 19. Ils veulent récupérer une arme, un flingue, pour flinguer le général. Et donc, on les voit partir. Alors bon, c'est rigolo parce qu'ils se retrouvent, ils partent de la gare de l'Est dans un train, et ils se trouvent dans un wagon avec une mère maquerelle et ses filles. Donc, les gamins au milieu. C'est assez drôle, c'est assez rigolo. Et donc, les gamins essaient de récupérer une arme. Ils se font récupérer, évidemment, sur le champ de bataille, quoi, qui vient juste de s'arrêter, de finir. Et donc, ils sont ramenés à Paris, ils retournent à Paris. Et il ne tue pas le général, voilà, parce que les gosses ne sont pas des assassins, c'est les généraux qui sont des assassins, qui vont mourir de la grippe espagnole. Il a fait pour lui. Et donc, voilà pour un petit peu l'histoire. Et alors, le père de Jean Mecker n'a pas été. Enfin, tu veux le raconter peut-être ?
On va faire l'inverse, c'est-à-dire que, légende ou pas légende.
Légende ou pas légende.
Voilà. Le père de Jean Mecker aurait été un des fusillés pour l'exemple.
En 17 au chemin des dames.
Au chemin des dames. Voilà. Donc ici. Bon. Alors, bon.
Désolé, c'est une légende.
C'est une légende, voilà.
Qu'il a laissé, que Jean Mecker a... Alors, c'est dans une interview. Je me demande si c'est pas l'interview que tu m'as montré
dans Le Monde Libertaire, en 87.
Il me semble que c'est là que c'est apparu la première fois. Et après, bon, c'est tellement romanesque, c'était presque inespéré. Donc, évidemment, ça a été repris par la presse, ça a été amplifié et compagnie. Il a fini par reconnaître que son père n'avait pas été fusillé. Il est juste pas rentré de la guerre. Il est parti avec la marraine de guerre qu'il avait rencontrée.
C'est ça, en fait, voilà. C'est une histoire de séparation de couple.
Voilà, c'est une histoire de séparation de couple.
Mais
assez
est-ce que
banale,
c'est pas la mère de Jean qui, plutôt que d'avouer que.
Il
y a un problème de couple qui ne marche pas, qui a brodé aussi sur. En disant que voilà, il n'était pas revenu de la guerre.
Oui, il n'était pas. Il y a aussi cet aspect des choses.
Voilà.
Bon. D'ailleurs, il le reconnaît. Je sais pas. On en trouve des traces dans son œuvre. Dans La Lucarne, par exemple, qui est un roman de 45. À un moment donné, il y a le personnage. C'est très autobiographique, souvent, les personnages masculins chez les jeunes ouvriers en difficulté sociale. C'est souvent très, très autobiographique. C'est une phrase en passant. Je ne me souviens plus le nom du personnage. Son père n'est pas rentré de la guerre. Il est parti refaire faire sa vie ailleurs. Voilà. Bon, c'est un peu subliminal, quoi, mais ça apparaît. Et on le retrouve dans Comme un incohérent aussi, où là, il a été écrit en 86, où il revient sur cette histoire et il raconte donc l'histoire du père qui n'est pas rentré de la guerre. Voilà, quoi. Mais c'était une belle légende. Quoi.
Oui, parce que comme il est amnésique, quand il écrit Comme un incohérent, en fait, il se rappelle que d'une partie de sa vie qui va à peu près jusqu'à 30 ans, à peu près, quoi.
Il a oublié tout ce qui va de l'après-guerre jusqu'à 74.
Donc, il se rappelle les 30 premières années de sa vie. Et donc, il fait un roman, là, comme un incohérent, mais qui est... qui est autobiographique en grande partie.
Oui, qui est largement autobiographique, où il raconte son retour à la vie, sa résurrection.
Moi, c'est un de ceux aussi que j'aurais pour continuer, que je conseillerais.
Alors, je le conseillerais aussi, mais je pense qu'il faut quand même un peu connaître l'œuvre, être familier peut-être de l'œuvre de Mecker pour l'apprécier pleinement.
Ouais. Donc, en troisième position. Alors,
voilà.
Le boucher des hurlus.
Comme un incohérent. On peut lire aussi Abîme. Peut être aussi une bonne entrée en matière.
Il y a des gens qui ont une autre qui connaissent Jean Amilin ou Jean Mecker et qui ont d'autres suggestions de conseils pour le lire. Nous, le but quand même, c'est que les gens aient envie de le lire et en lisent.
Voilà. Il y a aussi Nous avons les mains rouges.
Ah oui, celui-là, c'est sur la résistance.
Celui-là, c'est l'après-guerre. C'est l'immédiate après-guerre. On est en 47, ça doit se situer fin 45, début 46 à peu près. C'est une sorte de résistance qui est un bon roman. Celui-là, par contre, il est devenu difficile à trouver parce qu'il avait été édité chez Gallimard.
Mais il a été réédité chez Ancrage, mais c'est pareil, il n'y est plus.
Il n'est plus au catalogue.
Non, il n'y est plus du tout, il est épuisé.
Je pense qu'il est épuisé.
De toute façon, dans ce qu'il y a là, il y en a. Même dans la collection de Lostfeld, la récente, parce que je crois que le premier c'est 2005, c'est ça ?
Ouais, le premier c'est 2005.
Il y a déjà des livres qui ne. Le truc de Lure, là, c'est comment
la tragédie de Lure. L'affaire Dominici,
parce qu'il a fait aussi. il a aussi fait un texte sur l'affaire Dominici, quoi.
Comme journaliste, là. Enfin, il avait écrit pour France Dimanche. Ouais. C'était le qu'il avait envoyé comme reporter là-bas, et donc il en avait ramené la tragédie de l'Urse, qui a été écrit en 54, mai 54. Il a été publié chez Gallimard en mai 54. Justement, il accable pas lui Dominici, contrairement à tous les autres. Lui, il accable pas du tout Dominici. Il dit je sais pas, et il décrit le travail des journalistes sur place. Ce qui est assez intéressant et qui n'est pas très glorieux pour la profession.
Il fait la même chose par rapport au livre sur la résistance, là, où il décrit un peu les résistants à qui on demande de faire des choses pas très glorieuses au moment de la... l'épuration.
C'est surtout, c'est un groupe qui refuse, enfin on est en 1945-46, fin de la guerre, c'est un ancien réseau qui ne s'est pas dissous. Alors les uns les autres...
Ils veulent continuer à faire...
Ils veulent continuer et ils veulent que les salauds payent, quoi, notamment. Ouais. Donc on est là-dedans et c'est un très très bon roman, mais bon, qui est malheureusement assez difficile à se procurer aujourd'hui. J'espère qu'il sera édité un jour, parce que vraiment, celui-là aussi vaut vraiment le coup... C'est un bon roman, vraiment un bon roman.
Pour ceux qui veulent le lire, il est la bibliothèque communale. On ne l'a pas, nous, ici, mais il est la bibliothèque communale. Donc, voilà. Bon, de toute façon, est-ce que vous, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent, parce que non, on peut continuer, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon. Et donc, est-ce que, je sais pas, vous avez des questions un peu sur ou des avis, oui, sur ce que c'est quand même, c'est un personnage quand même, ce mec. Hein, il écrit des romans policiers, mais lui-même, sa vie, c'est quasiment un roman, quoi. On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà lu des romans de Jean Mecker, de Amila, et qui souhaiteront en parler? Voilà. Il y a un micro à donner là-bas.
C'est une remarque et une question. Moi, je n'ai lu que deux romans d'Amila. C'était La Lune d'Oma et l'autre, je ne me souviens plus du tout du titre, que j'ai beaucoup aimé, mais en même temps, j'étais un peu gênée par les personnages féminins. Parce que c'est hyper paternaliste quand même. Et de cet aspect-là, ça fait très daté. Parce que c'est un peu dur quand même. Les personnages féminins, c'est pas brillant. Alors j'en ai lu que deux. Peut-être que dans les autres, c'est différent. Je sais pas.
Non. Tu les as bien lus. Oui, effectivement, ces personnages féminins sont assez, ça dépend, mais souvent ils sont quand même assez maltraités. Ouais, de façon générale, ils sont souvent assez maltraités. On a ce couple très conflictuel qu'on va retrouver dans beaucoup de romans d'Amila, conflictuel explosif, quoi. Les coups, notamment le premier, c'est tout à fait ça, quoi. Et on va avoir la même veine dans les romans qui vont suivre, avec des personnages féminins qui sont pas effectifs. Ça dépend. Des fois, il y a le beau personnage féminin aussi. Hein. Il y a les deux. Dans Il n'y a pas de bon Dieu, il y a un très beau personnage féminin d'une jeune fille un petit peu délurée qui fait du rentre-dedans au pasteur, qui anime la lutte. C'est bon, c'est un beau personnage féminin. Dans quel autre roman on va aussi trouver dans un roman qui est moins important, enfin qui est moins intéressant, c'est le Grillon enragé, qui se passe en mai 68 à Paris et ensuite en Sardaigne, où là aussi on a un beau personnage féminin qui justement prend le bonhomme en main et le drive, quoi, le secoue et le remet dans le droit chemin, quoi, quelque part.
Donc on va essayer de lui trouver ce livre-là.
Ouais, et dans La Bonne Tisane aussi, dans La Bonne Tisane, qui est un roman de 56, si mes souvenirs sont bons, qui se passe dans un hôpital. C'est une histoire de truand, parce qu'il y a une mode de roman de truand suite à Simonard, là, Giovanni et compagnie. Il y a tout un tas de romans de truand qui sont parus. Alors, Mecker, pour des raisons économiques, s'est mis à la mode, mais il continue, enfin, Mila s'est mis à la mode du roman de truand, mais il continue à faire de la Mila. C'est des romans de truand, des histoires de truand, on se flingue, on course poursuite en bagnole et compagnie. Mais les héros, c'est deux jeunes infirmières de l'hôpital parisien, je ne sais plus lequel, dans le 14e. Et c'est vraiment elles qui sont les héros du roman, quoi. C'est pas du tout les truands, quoi. Alors, il y a les truands parce qu'il faut en mettre, à la limite. Mais il y a aussi dans... Les loups dans la bergerie aussi. Il y a un très beau personnage d'une éducatrice qui s'occupe de jeunes enfants... entre guillemets pré-délinquants, enfin un petit peu en difficulté sociale et personnelle. Et il y a trois truands qui débarquent là-dedans. Ça se passe dans une colonie qui est perdue sur un cos à Véronée, et il y a trois truands qui débarquent là-dedans, et c'est elle qui prend les choses en main, quoi. Voilà, qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui défend les gamins et qui mène la danse, quoi. Voilà. Donc il y a aussi de beaux personnages féminins chez c'est pas le mais quand il raconte des histoires de couple, parce que je crois que lui-même avait des, il le dit, hein, c'est pas des secrets,
oui,
il y a des histoires de couple assez,
hein,
difficiles. Donc je sais pas, il règle peut-être des comptes personnels à travers ses romans, et c'est ça qui doit peut-être
en fait, il s'est marié plusieurs fois et à chaque fois ça a cassé.
Marié, pas tant que ça, je crois pas. Oui, t'as raison, il s'est marié une fois, il a divorcé, il s'est remarié après, et ça n'a pas trop fonctionné.
Donc il disait que en gros ça peut... Bon. Voilà, ça le fait chier parce que bon, en gros, ça va à l'encontre d'écrire. Voilà, ça pose des problèmes.
Ça lui pose des problèmes.
J'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu sur le fait que de voir pourquoi les écrivains comme Denac, Péchereau, même Fajardi, se réclament finalement de Jean Mecker. Comment, en quoi on peut dire que Jean Mecker, qui est passé d'avant la, enfin de littérature prolétarienne au roman noir, toi, comment en même temps du roman noir, la façon qu'il avait lui de personnaliser ses romans, d'y introduire des éléments sociaux dedans, on arrive à quelque chose que bon, on a appelé le néo-polar, hein, et où on retrouve bon, Denac, Fajardi, Péchereau,
Blanchette, Vautrin, Delteil, voilà, Jonquet, enfin il y en a des.
Thierry Jonquet, oui.
Jean-Bernard Pouy aussi. Hein, Jean-Bernard Pouy, Rénal, cette génération.
Est-ce que j'ai bien quelques idées là-dessus, mais est-ce que tu pourrais nous dire un peu en quoi consistent un petit peu ces différences entre littérature prolétarienne, littérature populiste, roman noir, néo-polar, voir un peu comment il y a eu ce glissement-là. Bon, tout à l'heure, tu nous as dit qu'effectivement, roman prolétarien, c'était essentiellement des gens qui parlaient de la vie du travail, mais qui travaillaient.
C'est la définition qu'en donne Poulaille, en tout cas.
Voilà, qui était le chef de file. Et puis ensuite, il y a eu ce que tu as appelé le réalisme socialiste. Bon, là, il y a eu quand même une confrontation entre les marxistes, les associations qui était représenté par Poulaï et qui reste réclamé du roman prolétarien, et puis ceux qui étaient cautionnés par le Parti communiste, l'Union soviétique, etc., et qui ont utilisé, c'est un terme que moi j'emploie, j'y mets une connotation, en disant que voilà, les écrivains, ce qu'on leur demandait, c'était de faire de la culture, et après tout, il n'y avait pas besoin d'être un bon ouvrier pour parler de la classe ouvrière, et puis voilà. Donc on passe de quelque chose qui est assez restreint, c'est-à-dire qu'il faut être paysan ou ouvrier pour écrire ou se réclamer de la littérature prolétarienne, et puis d'autres secteurs, réaliste, socialiste pour toi, mais je pense que la littérature populiste relève du même choix. Là, Mordillat, par exemple, qu'on peut aussi classer dans ces auteurs populistes.
Le problème, c'est que le terme populiste a été récupéré dans le champ politique pour dénoncer tous ceux qui maintenant tout est populiste, hein. Dès qu'on n'est pas d'accord avec les ultralibéraux de Bruxelles, on est des populistes, on est des pique-pendre. Mais par contre, ce terme donc aujourd'hui est très très défavorablement connoté, malheureusement. Mais à l'origine, c'est d'abord une littérature, le populisme. Eugène Daby appartient aux écrivains populistes. Lou Guillou, il y a largement pire dans la littérature que ces deux auteurs, quoi. Alors d'autres ont été. Le rejet du populisme au début, ça a été une réaction de Poulaï par rapport à Terrive. Et l'aumônier, qui ont d'ailleurs mal fini, sont devenus collabos pendant la guerre. Donc il rejetait la notion de populisme parce que pour eux, pour Poulaï et l'aumônier, pour Terrive et l'aumônier, c'était un matériau nouveau, le peuple, mais qui n'avait été quasiment pas exploité. Mais c'était vraiment utilitaire, quoi. Voilà, ils se foutaient éperdument du peuple, les conditions de travail des ouvriers, des paysans, ils s'en foutaient éperdument, ça les intéressait pas. Par contre, ça leur permettait d'avoir un matériau nouveau pour raconter des histoires. C'était ça qui les intéressait. Il n'y a aucune connotation politique dedans, quoi. Il n'y a aucune revendication. Une connotation politique, il y en a une en creux, mais il y en a une. Et donc, Poulaï rejetait la littérature populiste pour cette raison. Il se revendiquait la littérature prolétarienne. Voilà, c'était ça un petit peu le. Alors, c'était des bagarres homériques à l'époque entre eux. Bon, aujourd'hui, ça nous semble. Alors, moi, j'avais un petit peu regroupé tout ça à la suite de Michel Ragon. J'ai repris le titre de son premier livre, qui est devenu par la suite Histoire de la littérature prolétarienne. Il parle d'histoire ouvrière. Voilà. Donc, ça permet, c'est un petit peu synthétique, quoi. Ça permet de synthétiser un petit peu toutes les littératures qui parlent du monde du travail, ou alors que ce soit les ouvriers qui en parlent ou que ce soit des gens qui ne sont pas des ouvriers, ça permettait de synthétiser un petit peu cette idée, quoi. Oui, on parle du monde du travail, quoi. La façon de vivre de la classe ouvrière, des paysans, des travailleurs, quoi.
D'ailleurs, Michel Ragon, dans son anthologie, cite Jean Mécker, mais pour quelques romans. Les premiers dans la collection blanche, en disant qu'ensuite il a pu écrire de romans prolétariens.
Oui, c'est ça. C'est ça. Carrément. Oui, tout à fait. Je ne sais même pas s'il cite le fait qu'il a écrit des polars. Je ne me souviens plus. Je crois qu'il dit qu'il est passé à autre chose, mais il ne dit pas à quoi, il me semble. Il le dit ? Je ne sais plus. Je ne me rappelle pas.
On regardera.
C'est anecdotique. C'est anecdotique. Et donc, tu m'avais posé la question. Ouais, alors, sur le néo-polar. Le néo-polar, c'est Jean-Patrick Manchette qui a inventé le terme. Alors, on l'a pris au sérieux, on n'aurait pas dû, parce que c'était pas du tout sérieux. C'était juste, il voulait se moquer du nouveau roman, en fait. Donc, il y a eu le nouveau roman, lui, il a fait le néo-polar, le nouveau polar, quoi. Voilà, c'était le nouveau roman policier. Mais finalement, si le terme est resté, c'est parce que ça correspondait aussi à quelque chose, je pense, hein, au-delà de la plaisanterie originelle, qui a mal tourné parce que personne ne l'a comprise. Donc tout le monde s'est mis à faire du néo-polar, du coup. Et en fait, Jean Mila, lui, fait du néo-polar avant tout le monde. Et avant qu'il existe, quoi. C'est la préhistoire du néo-polar. Parce que le roman policier, quand on lit les auteurs français des années 50, pour trouver des auteurs progressistes là-dedans, faut chercher un paquet de moments, quoi. Parce qu'il y a quand même, il y a beaucoup de. Au Fleuve Noir, les écrivains sont souvent assez réac, voire pour un certain nombre d'entre eux, d'anciens collabos, d'anciens miliciens et compagnie, enfin des gens assez peu fréquentables. Dans la série noire, Simonet, elle n'est pas beaucoup plus fréquentable que les autres. autres. Il y a toute une série de Giovanni, c'est un ancien collabo aussi. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de gens. Et puis le roman policier, quand on lit Agatha Christie, c'est pas très progressiste non plus, quoi. Donc il n'y avait pas de fatalité à ce que le roman noir, le roman policier devienne du roman noir, quoi. Voilà. Celui qui l'a, généralement celui que l'on cite pour avoir commencé à faire ça, c'est Jean-Patrick Blanchette en 71 avec l'affaire Angoustreau, qui est une qui est une reprise de l'affaire Ben Barka. En fait, c'est l'histoire, il a repris l'affaire Ben Barka, l'opposant marocain qui a été enlevé en plein Paris par la police française et zigouillé par les services secrets français et marocains en 65. Donc il écrit un roman là-dessus en 71, c'est-à-dire 6 ans après, alors que l'affaire est encore en instruction et que c'est un peu chaud quand même, hein. Mais celui qui a permis, qui a commencé à ce que l'on puisse faire des romans comme ça, c'est Jean Mille. Et dans les auteurs français à la série noire, dans les années 60, 50-60, c'est le seul. Et donc, en fait, quand Deninx et Pêchereau vont se revendiquer de lui dans les années, pour Deninx dans les années 80, pour Pêchereau à la fin des années 90, c'est à ça qu'ils font référence, quoi. D'ailleurs, Deninx le dit, il lisait des séries noires au kilo quasiment. Et donc, il en a plein, il a dû en lire plein. Et Amila, ça y prêtait grande attention. Et c'est après qu'il a repris justement l'œuvre d'Amila, et il s'est aperçu qu'effectivement il s'inscrivait dans cette tradition, dans cette filiation là. C'est une reconstruction, quoi, a posteriori de son écriture, quoi.
C'est vrai que c'est resté comme ça jusqu'à aujourd'hui, parce que aujourd'hui encore on trouve beaucoup de romans noirs qui sont le support à des questions de société. Bon, Deninx, quand il a commencé avec Meurtre pour mémoire, dans les années qui ont suivi, il y a un tas d'historiens qui ont travaillé sur le massacre du 17 octobre 61. C'était une manifestation pacifique des Algériens. On connaissait l'affaire Charon, hein, mais l'affaire Charon, c'était en 62, si je ne me trompe pas, et février 62. Et puis, cette manifestation de 17 octobre 61, où on avait assassiné quand même plusieurs centaines d'Algériens, qu'on a tués à l'arme blanche dans les commissariats, qu'on a balancés dans la Seine, et... Ouais, noyé par balle, c'est ça qu'on dit. Ouais. Et donc, c'était pas quelque chose, même dans le monde, hein, il y avait eu 3 morts. Enfin, bon, c'était quand même une histoire qui a été complètement cachée. Et à partir de ce roman noir, il y a eu un tas de gens qui ont fait la lumière. Et aujourd'hui, dans les livres d'histoire, le 17 octobre 61, c'est une date. Hein, c'est une date au même titre que la répression où des Algériens ont été tués au métro de Charonne en février 62.
C'était pas les Algériens au métro de Charonne. C'était manifestation des syndicats contre l'OAS.
Contre l'OAS.
C'était contre l'OAS. C'était après l'attentat, petite Delphine Renard qui a perdu la vue, attentat contre Malraux.
Ouais.
C'était en réaction à ça, en fait. Ouais. Ce qui n'a pas empêché les flics de Malraux de massacrer les militants syndicaux.
Mais bon, voilà. Donc, dans les romans noirs, on s'aperçoit qu'il y a à chaque fois du social derrière. Et je vais faire aussi Pêchereau, il n'avait pas fait un roman aussi sur Tahiti.
Oui, son premier, oui.
Tu irailles.
Je ne sais pas comment on le prononce. Ouais. Tout à fait, ouais. Et d'ailleurs, son personnage s'appelait Thomas Mecker, sans le T.
Ouais. Parce qu'on en avait parlé, parce qu'il est venu aussi Pêchereau ici. Voilà.
Lui, il revendique aussi, oui, tout à fait, la filiation avec Jean Amila, Jean Mecker. Il y a Deninx, c'est Pêchereau qui revendique directement. À mon avis, tous les autres lui sont redevables, quoi, d'avoir ouvert cette voie, d'avoir permis. Alors, ça, peut-être un autre l'aurait fait, ou ça aurait pu démarrer sur la base de Manchette en 61, j'en sais rien. Mais de fait, c'est lui qui est. Et c'était un peu. Bon, il y a aussi André Léna, par exemple,
Sur l'Espagne.
Il a écrit sur l'Espagne, il a écrit sur la résistance beaucoup sur la guerre. Il a fait des romans très intéressants. Et puis, bon, à côté, il a fait des choses beaucoup plus alimentaires, qui sont pas toujours très abouties. Mais je pense aussi à Pierre Signac, qui a une forme d'engagement un peu différente, mais qui est quand même pas un auteur tout à fait anodin et qui laisse indifférent, quoi, du tout. C'est un auteur important. Il a vraiment commencé en 68, parce qu'il a fait 2 romans 58-59 qui sont passés quasi inaperçus. Et après, en 68, il a démarré avec des romans de guerre antimilitaristes, les Morfalou, qui n'a rien à voir avec le film, qui est très mauvais.
Oui, d'ailleurs, pour faire un petit peu de liaison, là, y a quand même pas mal de romans de Mecker qui ont été conservés de support traduits en film.
Ouais.
Jusqu'à plus soif, c'est quand même une histoire. D'ailleurs, c'est assez amusant. Tu veux en dire quelque chose?
Jusqu'à plus soif, on boit pas de l'eau. Non, c'est un très bon roman aussi.
Oui, c'est sur l'agneau, là.
Ouais, c'est sur l'agneau, là. C'est sur le Calvados. C'est sur le trafic d'alcool entre la Normandie et où on distille clandestinement et la région parisienne où on vend l'alcool distillé clandestinement. C'est un super bon roman aussi qui a été réédité en folio policier il y a 5-6 ans, donc qui est assez facile à trouver et qui est vraiment très très bien. Et alors celui-là, il est intéressant dehors de l'histoire. Paris, c'est une histoire de truand, mais bon, ce qui est important là-dedans, dans le roman, c'est les paysans normands, quoi, le véritable héros.
La loi s'applique pas là-bas.
Non, la loi s'applique pas et ceux qui essaient de l'appliquer ont du mal à l'appliquer. Mais en même temps, c'est un côté gendarme et voleur, quoi. C'est pas super violent. Et c'est quand les truands débarquent que ça tourne mal, quoi. Voilà, c'est eux qui, entre guillemets, enveniment fortement la situation.
Ouais, les gendarmes sur place, ils sont directement intéressés au trafic.
Oui, non. Puis ils essaient de le combattre, mais ça reste relativement gentil, quoi. Quand les truands débarquent, ça finit assez mal, ça tourne assez mal. Mais bon, c'est un roman assez sympathique.
Jusqu'à plus soif, on a quelques-uns d'exemplaires là. Bon, je rappelle quand même que bon, on peut tous les romans qui sont là de Jean Mila, Jean Mecker, qui sont en vente, on peut les lire aussi gratuitement, puisqu'ils sont à la bibliothèque. On ne vend pas de livres qui ne sont pas à la bibliothèque. Voilà. Je ne sais pas, on peut continuer aussi autour d'un apéro. Oui, il y a des questions ?
Oui, pour le cinéma. Alors pour le cinéma, il a novélisé deux films de Spack et Kayat dans les années 50. Spack et Kayat ont fait des films intéressants et importants à l'époque. L'un qui est sur la peine de mort, qui s'appelle Nous sommes tous des assassins. Et un autre sur la question de l'euthanasie qui s'appelle Justice est faite. Donc, ils en ont fait d'autres aussi dans la même veine, comme Les risques du métier, des choses comme ça, quoi. Sur les questions de société, il y a des films très intéressants chez Kayat et Spack. Et Gallimard a demandé à Jean Mecker de les novéliser, c'est-à-dire reprendre les scénarios et d'écrire des romans à partir. Les films ont été faits d'abord et les romans ont été écrits ensuite. Jusqu'à plus soif, c'est pareil, c'est une novélisation en fait. Il a travaillé au scénario d'un film de Maurice Labro, du film de Maurice Labro qui s'appelle Jusqu'à plus soif, et la novélisation a donné le roman. Ça, c'est l'édition originale où on voit il y a une photo sur la couverture, ce qui est très rare dans ces années-là encore chez Gallimard. Donc, exemple de novélisation. Ensuite, il y a de ces romans comme La bonne tisane, La bonne tisane, qui ont été adaptés dans ces années-là. Beaucoup de cinéastes reprenaient les romans de la série noire et les adaptaient au cinéma directement. Donc, il a pas mal travaillé pour le cinéma. Alors, beaucoup d'écrivains dans ces années-là vivaient du cinéma, en fait. Parce que les bouquins, là, quand ils étaient écrivains en plein temps, ne leur permettaient pas de vivre. Ceux qui n'avaient pas d'activité salariée, journaliste, enseignant, je ne sais quoi encore, se travaillaient souvent pour le cinéma, ce qui leur permettait de vivre, quoi, en fait. Donc, Mecker a gagné pas mal d'argent avec le cinéma, quoi, ce qui lui a permis de vivre à peu près, quoi.
Surtout les périodes où il n'écrivait pas.
Surtout les périodes où il n'écrivait pas. Il n'est pas devenu millionnaire, hein, parce que ça nourrit pas son homme, mais bon, il arrivait à en vivre, quoi. Voilà, il en vivotait plus ou moins, voilà, quoi.
Faut parler dans le truc.
Le film a été tourné par Spack et Kayat. Il a repris lui le scénario. Alors je crois qu'il a le film doit dater de 50, il me semble. Et ensuite il a novélisé le bouquin 3-4 ans après. Enfin il a novélisé le scénario, pardon, il a écrit le bouquin 3-4 ans après. Le scénario n'est pas lui. Non, c'est toujours dans les deux cas. Jusqu'à plus soif. Non, pardon. Nous sommes tous des assassins. Justice est faite. C'est un scénario de Spack et Kayat. Et ensuite, il a novélisé, il en a fait un roman, quoi. Il y avait aussi eu François Chalet, dans un autre style d'auteur, qui avait fait la même chose avec aussi un film de Spack et Kayat qui s'appelle Avant le déluge. C'est l'histoire d'un d'un groupe de... ça reprend l'histoire de l'appât. Vous avez peut-être vu le film de Tavernier. C'est le même thème. C'est une jeune fille qui va séduire des types qui ont du fric. Et il y a ses copains qui lui tombent dessus, qui leur tombent dessus pour leur extorquer leur fric. Et en fait, on est dans les années 50, en période de guerre froide. Ils pensent que le monde va péter, quoi, qu'il va y avoir une troisième guerre nucléaire. Une troisième guerre mondiale, ça sera une guerre nucléaire. Et ils veulent acheter un bateau pour partir, s'enfuir, partir dans le Pacifique. Donc, c'est des jeunes adolescents. Donc, le film était pas mal, c'était assez intéressant. C'est le seul François Chalet que j'ai lu, mais celui-là était pas trop mal. Et en fait, il est annoncé sur la quatrième de couverture dans des romans de Mecker. Ils sont mis ensemble, quoi. Il y a les trois romans ensemble. Il y en a deux de Mecker, un de Chalet, quoi. Ça fait partie d'une. Enfin, il y a une quadrilogie parce qu'il y a un quatrième film qui a été fait, mais il n'a pas été novélisé. Donc, Dossier Noir, je crois, il me semble. Qui est dans les mêmes. Alors, je sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas vu. Donc, voilà, novélisation.
Je sais pas, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ou toi tu veux peut-être aborder un point particulier qui tient à cœur sur la suite de, est-ce qu'il s'est bien vendu ce livre sur
J'en sais rien.
Je retire ma question.
J'en sais rien. J'allais te dire je m'en fous, mais non, je m'en fous pas. Mais non, je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas du tout. J'ai pas mon bouquin, tu veux dire?
Oui, oui.
Ah oui, je sais pas. J'ai pas eu le. J'en sais rien. Ouais. Je connais pas bien les éditeurs. Ils ont des personnes un peu spéciales.
Ouais.
C'est un peu particulier. Bon, donc j'attends d'avoir des nouvelles. Je suppose qu'un jour je recevrai un relevé des ventes, mais ouais. Ça doit arriver. Ouais. J'en sais rien. Je sais pas du tout. Non. Ça fait un an qu'il est sorti. Donc je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Si je voudrais, moi, je voudrais parler d'un livre dont on n'a pas du tout parlé. C'est La Marche au Canon.
Ah oui, oui, c'est
La Marche au Canon.
C'est un
chef-d'œuvre. C'est vraiment, c'est un petit bouquin. Ouais. À lire, quoi. Ouais. Les coups. Il y a pas de. Comment
on l'a oublié. Pourtant, c'est Boucher du Rue.
Voilà. Alors celui-là, c'est un bouquin qui a été retrouvé par Stéphanie Delestré et Hervé Delouche sur un cahier. Il y avait tout un tas de vieux papiers qui traînaient. Heureusement, la maison qu'il habitait où habitait Jean-Mila, c'est à côté de Fontainebleau en Seine-et-Marne, la maison a été reprise par son fils. Et le fils, il n'a rien balancé. Donc il y avait des monceaux de papier qui traînaient partout. Et il a fait un jour du classement avec Stéphanie Delestré, donc, qui est l'éditrice chez Losfeld avec Delouche. Et ils ont trouvé sur un cahier d'écolier ce bouquin, La Marche au Canon. Enfin, alors c'est un truc, on en entend souvent parler quand on reprend les courriers Gallimard, tout ça. Ça revient régulièrement, cette Marche au Canon. Mais c'est le même titre qui a servi en fait pour des œuvres très différentes, alors qui sont soit des parties d'une œuvre plus grande, soit, enfin bon, il y a des variations sur le. C'est pas toujours le même texte. Donc celui-là qui était sur un cahier d'écolier marqué La Marche au Canon, il raconte la drôle de guerre et la débâcle en 1940 en fait. Alors une centaine de pages, c'est du concentré, c'est du condensé, et c'est vraiment très 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 bon, quoi. Vraiment, moi ça m'a vraiment soufflé comme bouquin. C'est un très très beau livre.
C'est du Suisse,
oui, parce qu'en plus il fait jamais rien comme les autres. Il y a 2 millions de soldats français qui vont être faits prisonniers en Allemagne et lui il est fait prisonnier en Suisse.
D'ailleurs, il faut qu'il occupe son temps, c'est là qu'il décide d'écrire.
Voilà, c'est pareil, c'est pas. Donc, il se retrouve en Suisse parce qu'il y a encore d'armée française en fait qui a retraité depuis l'Est et qui a évité la nasse des Vosges. Ils ne sont pas fait prendre dans les Vosges, ils ont réussi à passer. Il y a aussi des régiments polonais qui sont passés en Suisse et donc ils se sont retrouvés. Ils n'étaient pas prisonniers de guerre, ils étaient internés militaires. Et petit à petit, les Suisses les ont libérés assez rapidement. Et donc, il a passé 8-9 mois en captivité en Suisse, ouais. Et il aurait, j'emploie le conditionnel parce que avec Mecker c'est toujours compliqué entre ce qu'il dit, ce qu'il est, des fois il y a des sacrées différences, il aurait écrit les coups en étant prisonnier. Mais en fait, je ne pense pas qu'il ait écrit les coups, il a peut-être écrit ça justement, il a peut-être écrit La Marche au Canon, parce que les coups, dans une interview de 49, à Pierre Berger, je pense que c'est le même que celui qui est celui d'aujourd'hui, propriétaire de Libé, ou du Monde, je ne sais plus, les deux. Figaro, sinon, je sais plus. Bon. Non, je plaisante.
Il rachète tout, de toute façon.
Oui, il rachète tout.
Il aura plus.
Voilà. Oui, il aura tout. Donc. Donc, peu importe. Donc, il dit que quand il est rentré de captivité, il a retrouvé un manuscrit dans un tiroir et qu'il l'a tapé. Alors, il a récupéré, il travaillait à la mairie du 20e. Il récupérait des chutes de papier, parce qu'il y a une pénurie de papier pendant la guerre, et donc il a tapé ce roman sur du papier timbré, voilà, sur des chutes de papier timbré à l'effigie de la République. Et donc il a emballé ça dans un bout de papier peint, et il a envoyé le tout à Gallimard.
Il disait que c'est à cause de ça que son livre avait été retenu.
C'est
le seul livre qui a été écrit sur du papier timbré et envoyé chez Gallimard comme ça.
Donc comme la première interview qu'il donne, il dit, j'ai retrouvé un manuscrit manuscrits que j'ai tapés, j'aurais plutôt tendance à croire que c'est ça la vérité. Parce qu'après, il dit qu'il a écrit les cours en Suisse, mais il a dû écrire en Suisse, ça j'en doute pas. Est-ce que c'est perdu? Est-ce que ça peut être la marche au canon? Je sais pas, quoi. Voilà, ça, j'en sais pas plus. Mais bon, c'est souvent compliqué entre ce qu'il dit et enfin, il y a beaucoup de contradictions dans ce qu'il dit dans différentes interviews. C'est très grave, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Il y a une enquête à mener.
Voilà, il y avait une véritable enquête à mener. Malheureusement, on a perdu une partie des éléments, donc les preuves ont été détruites. Mais bon, c'est pas très important. Ce qui reste, c'est l'œuvre, quoi. Je crois que c'est ça l'essentiel. C'est une œuvre intéressante. C'est un écrivain qui a des choses à dire, qui avait des choses à dire quand il écrivait, et qui nous dit encore des choses aujourd'hui du monde dans lequel on vit, quoi. Je crois. Il est aussi traduit d'ailleurs. On va pas parler de traduction. Il est traduit en ce moment en Allemagne. Alors c'est intéressant parce que c'est une traduction collective. C'est un professeur de philologie allemand qui traduit les romans d'Amila avec un groupe d'étudiants. Donc c'est une traduction collective sous pseudonyme collectif. Donc c'est assez intéressant. Ils en ont traduit 6 ou 7. Les derniers a dû paraître en 2010 ou en 2012, je ne sais plus exactement. Donc il y a encore des traductions aujourd'hui. Et il y a un certain engouement en Allemagne pour ce type de roman. Voilà quoi. Donc Amila est traduit aussi. Voilà. Maintenant.
Bon, moi je vous propose qu'on... À moins qu'il y ait d'autres... Ah, il y a une question là-bas.
Rajouter, puisqu'on parlait des éditions Joseph K, en fait il y a deux numéros de la revue Temps Noir aussi qui lui sont consacrés, qui sont vraiment pour en savoir plus. Il y a le numéro 13 qui reproduit, je crois, Nous avons les mains rouges, la pièce de théâtre, et puis le numéro 15 où là on a toute une étude qui est vraiment très très intéressante. Donc, voilà,
oui, il y a eu un numéro de 813 aussi, de la revue 813 à la revue du Polar. Effectivement, il y a des... je crois même qu'il n'y en a pas eu un autre. Ils avaient édité un roman aussi... Enfin, dans la revue, ils avaient réédité un roman qui avait été refusé par Gallimard, une histoire qui se passe dans la montagne avec un hélicoptère qui s'était crashé, un truc un petit peu bizarre.
Oui, effectivement. Oui.
Voilà, donc dans Temps Noir, ils ont réédité effectivement des petits textes qui n'ont pas vocation à être édités en volume, donc qui sont édités en revue. Et effectivement, il y a un gros travail qui est fait par Franck Lomo, qui avait d'ailleurs été le commissaire d'une exposition qui s'était tenue à la Bilipo à Paris, à la Bibliothèque des littératures policières, sur Jean Amila, une belle exposition. Alors, je ne sais pas après si elle a tourné ou pas. Moi, je l'ai vu à la Bilipo. Quoi. Je l'ai en photo, si ça vous intéresse. Je peux en faire un DVD, l'envoyer à Dominique, s'il y en a qui s'intéresse. Pour éventuellement, ouais. Parce que je ne peux pas l'envoyer par internet, ça passera pas. Il doit y avoir 180 photos. Et il m'avait autorisé à photographier l'expo. Quoi. Donc j'ai vraiment les textes, les documents. Bon, mais écoute, je t'en fais un DVD, je te l'enverrai. Ouais.
Et tu m'autorises à la copier.
Évidemment, ça sert à ça.
Parce que je pense que dès que je vais là-bas, il y en a qui m'en
ont. Oui, non, mais c'est pour ça que je te l'envoie.
Bon, donc on va peut-être passer à la. Bon, mais de toute façon, avant de passer à l'apéro, on va quand même te remercier d'être venu donc chez nous pour parler de Jean Amila.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité, en tout cas. Ça m'a fait plaisir.
C'est bien comment c'est ça se fait comme ça. Moi, j'aime bien les fins. Donc, ça ne va pas nous empêcher de boire un coup ensemble.
Ah non, surtout pas.
Voilà, voilà comme quoi, même entre marxistes et anarchistes, ça peut bien se passer.
Oui, je pense.
Surtout quand il y a des intermédiaires comme Jean Amila.
Tout à fait. Puisque tu me tends la perche, je vais la saisir, tant pis pour toi. Qui, effectivement, se revendiquait des idées libertaires, mais qui, en même temps, a visiblement subi, entre guillemets, l'influence des marxistes, et il a dû pas mal fréquenter les communistes parce qu'il y a pas mal d'éléments quand même. Alors, il n'est pas communiste, jamais été, je pense. Pas,
il y a beaucoup d'éléments
où on sent cette culture communiste, quoi, cette culture ouvrière communiste qu'on retrouve dans d'autres textes, notamment ceux de Mordillat d'ailleurs, des fois, du 20e, de Ménilmontant, de Belleville. On sent cette culture, ce substrat, quoi, ce bain dans lequel il a trempé.
Ce que je sens là, c'est le renouveau un petit peu des combats d'antan entre marxistes et prolétariens.
Non,
c'est fini tout ça.
Fini.
Oh, bah, c'est rassurant.
Enfin, c'est fini, mais... ça, et c'est fini, mais bon, pour l'instant, visiblement.
Mais bon, visiblement.
Faute de combattants.
Finalement, bon, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'au moins. moins on est d'accord, c'est que des gens comme des auteurs comme Jean Amila, Jean Mecker, il faut les promouvoir, il faut parler d'eux, parce que bon, voilà, ils ont quelque chose à dire. Et aujourd'hui, à travers le roman noir, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de questions qui sont posées, et on peut prendre du bon temps en lisant un bon roman et en même temps faire travailler les neurones. Être obligé de bouger la tête simplement comme ça pour que les deux neurones se touchent. Voilà. Donc on va boire l'apéro et puis bon voilà, on remercie Pierre d'être venu à Merlieu. Voilà.
Merci de m'avoir invité. Je vous remercie.